Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Actuellement, nous abordons l'étude du livre de Ruth et notre approche est un peu différente par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Nous commencerons par la lecture d'un extrait de ce livre. Ensuite, nous accueillerons une interview imaginaire avec l'un des personnages qui figure dans le récit biblique. Suite au deuil qui ont frappé leur famille, Noémie et sa belle-fille Ruth se sont retrouvées veuves et donc confrontées à la pauvreté et la précarité. C'est pourquoi Noémie décide de retourner dans sa ville natale. Et Ruth, qui est moabite, veut l'accompagner. Pour se nourrir, les pauvres en Israël avaient le droit de glaner dans les champs pour ramasser le blé qui n'avait pas été cueilli. C'est ce que fait Ruth dans la propriété d'un homme nommé Boaz. Ce dernier est un homme bon et traite Ruth avec dignité. Lorsqu'elle rentre à la maison, sa belle-mère lui apprend qu'elle a des liens de parenté avec Boaz et que, de ce fait, elle a des droits et des responsabilités à remplir envers elle deux. Cette situation pousse Noémie à concevoir un projet pour assurer l'avenir de Ruth. Nous avons parlé de ce projet lors de nos deux dernières émissions, et à présent, nous allons nous entretenir avec Boaz. En fait, Boaz a accepté d'agir en rédempteur envers Ruth et Noémie, et aujourd'hui, nous allons découvrir la manière dont les événements se sont déroulés. Cédons la place à Jocelyne pour la lecture du livre de Ruth au chapitre 4, les versets 1 à 12.
Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit : Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit : Asseyez-vous ici. Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat : Naomi est revenue du pays de Moab et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire : Fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit : Je la rachèterai. Boaz dit : Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit : Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz : Fais-en l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple : Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérès. que Tamar a donné à Judas.
Merci. À présent, Étienne nous rejoint. Il va jouer le rôle de Booz. Il s'agit d'une interview avec des éléments imaginaires, mais nous allons rester aussi fidèles que possible à la Bible. Booz, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Booz, rappelez-nous les circonstances surprenantes qui vous ont conduit à faire ces démarches aux portes de la ville de Bethléem.
Oui, j'ai fait la connaissance de Ruth lorsqu'elle est venue glaner du blé dans mes champs. C'est à ce moment-là que j'ai constaté que Ruth est une jeune femme sérieuse et pieuse qui s'occupe bien de sa belle-mère, Noémie. J'ai donc voulu veiller sur elle pendant qu'elle travaillait dans mes champs. Je l'ai prise sous ma protection et je me suis assuré qu'elle pourrait prendre suffisamment de blé pour bien se nourrir, elle et sa belle-mère. Il faut ajouter que j'avais un lien de parenté avec Noémie et donc il était de mon devoir de m'occuper d'elle et aussi de Ruth, puisqu'elles étaient toutes les deux veuves et sans enfants. Si je ne faisais rien pour elle, elle risquait de ne pas s'en sortir du tout. Puis, une nuit, alors que je dormais sur mon aire de battage, tout d'un coup je me suis réveillé et j'ai trouvé Ruth allongée à mes pieds. Quelle surprise ! C'était aussi très embarrassant. Tout à fait perplexe, je l'ai interrogée en douceur et elle m'a expliqué que sa belle-mère, Noémie, l'avait envoyée pour me demander de m'acquitter envers elle de ma responsabilité de rédempteur. Ceci impliquait, dans cette situation, que je me marie avec Ruth. Il est vrai que la façon dont les choses se sont déroulées peut paraître scandaleuse, mais je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé d'immoral. Noémie et Ruth ont simplement voulu, et en toute discrétion, faire valoir leurs droits auprès de moi.
Et vous souhaitiez répondre positivement à la demande de Ruth, mais vous risquiez de vous heurter à une difficulté, me semble-t-il.
Oui, et c'est pour cette raison que j'ai dû aller aux portes de Bethléem pour négocier l'affaire avec un autre homme, car ce dernier avait des liens de parenté avec Noémie et il était un plus proche parent que moi. C'était donc à lui d'agir en rédempteur. Il avait la priorité sur moi.
Rappelez-nous le sens du mot « rédempteur » selon l'usage de vos traditions.
Oui, chez nous, le mot « rédempteur » a un sens légal un peu technique avec lequel on n'est pas forcément familier de nos jours. En fait, si une personne tombait dans le malheur, un membre de la famille élargie devait agir pour la secourir. Ce membre de la famille agissait en rédempteur. Par exemple, si une personne s'était endettée au point de devenir l'esclave de quelqu'un, le rédempteur devait intervenir en sa faveur pour payer ses dettes et ainsi libérer cette personne de l'esclavage. Le cas de Noémie et de Ruth présentait d'autres cas de figure. D'abord, le mari de Noémie avait vendu leur terre avant d'aller vivre en Moab. De ce fait, Noémie n'avait plus de terre. Mais un rédempteur avait le droit et la responsabilité de racheter ses terres pour reconstituer l'héritage familial. Ensuite, comme Ruth était veuve et sans enfant, un rédempteur avait la responsabilité de se marier avec elle pour assurer son avenir et son bien-être et essayer de lui donner des héritiers.
Ce sont quand même de lourdes responsabilités.
Oui, c'est vrai, Yann. Et surtout lorsque cela implique un mariage. D'ailleurs, vous avez pu constater que mon parent, celui qui était intéressé par les terres de Noémie et voulait les acheter, lorsqu'il a appris qu'il lui fallait aussi prendre Ruth en mariage, alors il s'est désengagé.
Ce qui vous a permis d'assumer cette responsabilité, celle d'acheter les terres de Noémie et de vous marier avec Ruth.
Oui, et j'étais heureux de pouvoir le faire. D'autant plus que je savais que Ruth était une femme pieuse et sérieuse.
Ruth était une femme moabite et donc une femme étrangère. Est-ce que c'est cela qui a dissuadé votre autre parent de la prendre en mariage?
Je ne sais pas. J'ai plutôt eu l'impression que son choix était davantage lié à des raisons familiales ou financières. Il est vrai que nos traditions considèrent qu'il est mal vu de se marier avec une femme étrangère, car nous devons nous protéger de toute influence idolâtre. Cependant, notre loi insiste sur le fait que nous devons bien accueillir les étrangers. Nous devons bien nous occuper d'eux et défendre leurs droits. De plus, il était évident que Ruth avait mis sa foi en l'Éternel. Elle était pieuse, elle avait renoncé aux traditions idolâtres de son pays. Je n'avais donc aucun souci à me faire à ce sujet-là. Je suis d'accord qu'il vaut mieux ne pas se marier avec une personne qui vit avec des croyances idolâtres et qui les pratique. Lorsque l'on s'unit par le mariage à son futur conjoint ou conjointe, il faut partager la même foi, il faut que l'un et l'autre soient attachés au Dieu qui se révèle dans la Bible. Si l'on se marie avec une personne qui ne croit pas en Dieu, cela peut susciter des conflits au sein du mariage et éventuellement affaiblir la foi du croyant, l'éloigner de Dieu. Toutefois, je savais qu'en me mariant avec Ruth, nous irions tous les deux dans le même sens et que nous nous encouragerions mutuellement dans la foi. Dans toute décision de mariage, il faut sérieusement réfléchir à ces questions.
Merci pour ces conseils importants, mais revenons au texte. Pouvez-vous nous éclairer sur cette histoire de sandales?
Oui, bien sûr. Cela correspond à une tradition chez nous qui sert à valider ou à certifier qu'un contrat liant deux personnes vient d'être échangé. De plus, il est primordial que les affaires importantes se passent devant des témoins reconnus et respectés. Et c'est pour cela que les débats et les discussions ont lieu aux portes de la ville. Car c'est justement à cet endroit que les anciens se rassemblent pour discuter d'affaires de ce genre. Chez nous, il était rare que l'on sache lire et écrire. Il n'y avait pas de contrat écrit sur un papier que l'on signait. Donc cet échange de sandales devant témoins servait de signature au contrat. Ainsi, tous savaient que j'avais acquis les terres de Noémie ainsi que le droit de prendre Ruth en mariage.
Merci pour cette précision. Nous constatons que vous agissiez avec une grande intégrité.
Oui, effectivement. Je pense qu'il est très important de faire preuve d'intégrité devant Dieu et devant les hommes.
Bose, nous approchons de la fin de notre émission. Quelle leçon voulez-vous que nos amis auditeurs retiennent?
Je suis conscient que les événements dont nous avons parlé aujourd'hui concernent des lois et des traditions qui ne sont plus en vigueur au moment où je parle. Cependant, je voudrais que les démarches que j'ai entreprises pour aider Ruth et Noémie puissent encourager nos amis auditeurs à bien réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour aider à leur tour une personne exposée à la pauvreté, à la précarité ou à l'insécurité. Je voudrais inciter à la générosité et au sacrifice, car oui, venir en aide à quelqu'un implique souvent des sacrifices de notre part, des dépenses financières, des dépenses en temps, en énergie physique et émotionnelle. Mais tout cela en vaut la peine, comme nous le verrons encore la prochaine fois. Je voudrais aussi promouvoir l'intégrité et insister sur le fait que lorsque nous venons en aide à une personne, il faut respecter les lois de l'Éternel et les règlements en vigueur dans notre pays. Oui, pour bien aimer notre prochain, il faut faire preuve d'intégrité et aussi de compassion et de générosité.
Merci Bose pour votre participation enrichissante à notre émission. La prochaine fois, nous poursuivrons notre étude du livre de Ruth et nous retrouverons Noémie et nous raconterons la suite des événements. En attendant, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.